Depuis que je suis arrivé à la station en décembre, beaucoup de mes interlocuteurs francophones me disent en aparté qu'ils vivent un sentiment d'insécurité ou d'inconfort lorsqu'ils parlent en français. C'est peut-être aussi un sentiment que vous partagez chez vous. Alors aujourd'hui, pour en parler, nous avons fait appel à Madame Xiang Yang, conseillère en service en français au bureau de la diversité et de l'inclusion à la municipalité d'Halifax. Bonjour Madame.
Bonjour Sébastien.
Comme je le disais, vous êtes la conseillère en suivi en français pour la municipalité d'Halifax. Donc, dites-nous en préambule, quel est votre rôle?
Donc, mon titre s'appelle la conseillère des services en français et je travaille dans le bureau de la diversité et de l'inclusion. Donc, mon rôle, ça porte surtout sur deux aspects. Du point de vue interne, je travaille avec les différentes divisions de la municipalité pour mieux servir les résidents francophones et pour mieux les mobiliser dans les initiatives municipales. Et sur un autre plan, le plan externe, j'essaie aussi de liens avec les organismes communautaires de Halifax dans la communauté francophone et aussi essayer de connaître les besoins et les attentes des résidents francophones dans la région d'Halifax. Et maintenant, puisque le Conseil régional a adopté unanimement une stratégie des services en français pour la municipalité l'année dernière. Mon rôle principal aussi porte sur la mise en œuvre de cette stratégie. La stratégie est aussi disponible sur le site web de halifax.ca.
Pour planter le décor, donc peut-on évaluer d'abord quel est le nombre de francophones qui vivent à Halifax ou éventuellement dans la province?
Selon les statistiques de 2016, c'est les statistiques les plus récentes que nous avons. Dans la région d'Halifax, il y a 3% des résidents qui s'identifient comme francophones.
Pouvez-vous nous dire, en fait, quelle est la tendance? Est-ce qu'on peut évaluer une tendance à la hausse de francophones ou à la baisse?
Oui, en fait, on a aussi fait des analyses des données, comment dirais-je, depuis 2006, pour justement faire une comparaison entre les données offertes par le Statistique Canada. On a observé qu'il y a une hausse du bilinguisme dans la province, ce qui est bon. Et aussi le même phénomène dans la région d'Halifax, c'est-à-dire le nombre des gens qui s'identifient comme bilingues ont augmenté de façon assez stable depuis le début de 2000 jusqu'à maintenant. Mais si on compare le nombre des francophones, c'est-à-dire les gens qui considèrent le français comme leur première langue, malheureusement, on constate en fait une baisse du point de vue de la province. Je crois que si je ne me trompe pas, le nombre des francophones a diminué de 13% du point de vue de la province. Mais dans la région d'Halifax, le nombre des francophones reste à peu près le même. Selon le plus récent statistique, c'est plus de 10 000 personnes qui s'identifient comme francophones dans la région d'Halifax. Mais compte tenu de l'augmentation de la population générale dans la région d'Halifax, c'est encore un phénomène assez inquiétant de voir qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'augmentation du nombre de francophones dans la région d'Halifax.
Alors, ce que vous dites là est très intéressant. Donc, pour en revenir à l'action de la municipalité, donc quel constat faites-vous sur les gens qui me disent qu'ils se sentent en insécurité lorsqu'ils souhaitent parler français ou qu'ils ont des difficultés à communiquer en français? Et que met la municipalité en place pour aider ces gens-là?
Tout d'abord, il faut aussi distinguer les services offerts par la province, les services offerts par le gouvernement fédéral et les services offerts par la municipalité. Donc, la municipalité s'occupe plutôt des services comme le transit, c'est-à-dire le transport en commun, et le recyclage, c'est-à-dire le traitement des déchets et aussi les impôts foncières. et la municipalité offre des services aussi dans le domaine de récréation. Il y a des programmes de récréation à coût très médiocre pour justement les rendre plus abordables pour la population. Donc, mais d'autre part, l'éducation ou bien les services de santé ne constituent pas le mandat de la municipalité. Donc, pour le moment, la municipalité n'a pas une loi ou bien une politique qui l'exige d'offrir des services en français. Donc, c'est vraiment le résultat, c'est que les services en français, s'ils existent, sont offerts dans un moyen aléatoire, c'est-à-dire s'il y a un employé municipal qui, par hasard, est bilingue, ils peuvent offrir les services en français s'ils le veulent. Mais ça ne constitue pas le mandat de la municipalité. Il n'y a pas une telle politique. Donc, c'est là comment dirais-je, la barrière principale qui cause qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de services disponibles en français. Mais d'autre part, il y a bien des initiatives qui ont été déjà prises par la municipalité pour mieux servir les résidents francophones. Par exemple, maintenant, le site de la municipalité halifax.ca, il y a une micro-site, c'est-à-dire il y a un site en français qui inclut les pages avec les informations les plus pertinentes et les plus essentielles qui sont disponibles en français. Et aussi, d'autre part, des différentes divisions de la municipalité ont toujours essayé de rendre leur communication plus accessible, c'est-à-dire en français. Par exemple, tous les annonces d'intérêt public sont bilingues depuis 2000, je crois 2018 ou 2017. Et il y a aussi des documents comme les guides pour le recyclage et certains guides pour le service de transport en commun qui ont été traduits vers plusieurs langues, y compris le français. Et puis, j'espère qu'avec cette nouvelle stratégie, il y aura plus de services et plus de documents de communication disponibles en français.
Comme vous le disiez, il n'y a pas d'obligation légale à faire toutes ces démarches, mais vous prenez des initiatives pour la population d'Halifax. Alors, peut-on évaluer exactement ce que vous faites? J'ai pu voir qu'il y a, comme vous le disiez, beaucoup de publications. Est-ce qu'on a un chiffre, une proportion de publications éditées en français? Il y a des postes qui sont réservés aussi aux francophones. Est-ce que ça, on peut le quantifier?
Donc, du point de vue de documents disponibles en français, ça c'est vraiment difficile à définir parce que chaque division a leur propre budget et puis ils décident si un document doit être traduit vers le français ou non. Mais d'autre part, notre bureau gère un budget de traduction pour justement soutenir la traduction des documents vers le français. En général, chaque année, on traduit presque, je ne peux pas dire le nombre de documents, mais je pourrais dire que le budget est à peu près 5 000. Donc,
5 000 $.
chaque année, on épuise le 5 000 $ pour justement soutenir la traduction. Et puis d'autre part, on aussi offre des formations linguistiques aux employés pour justement leur rendre plus à l'aise à parler français s'ils ont déjà eu une base dans cette langue ou bien pour justement l'initier dans l'apprentissage de français.
Alors, d'un point de vue un petit peu plus large, j'ai entendu récemment que l'immigration en Nouvelle-Écosse faisait venir plus d'anglophones que de francophones, c'est ce que vous disiez un petit peu au départ. Donc, est-ce que ce déséquilibre n'entraîne pas aussi un affaiblissement de la communauté francophone?
Je n'ai pas de statistiques précises pour comparer le nombre d'immigrants anglophones et d'immigrants francophones. Mais je dirais que ça serait peut-être le phénomène que vivent la plupart des communautés francophones en situation minoritaire. Il y a déjà un déséquilibre entre le nombre des immigrants francophones et anglophones du point de vue national. Et la plupart des francophones d'immigrants francophones, s'ils veulent vraiment vivre en français, leur premier choix serait peut-être le Québec. Donc, ça nous rend dans une situation vraiment moins avantageuse. C'est une réalité à laquelle on doit faire face, mais je ne dirais pas que, il faut perdre l'espoir parce que le plus on sensibilise les résidents francophones de l'existence des services en français, le plus on pourrait améliorer la qualité et la quantité des services en français disponibles.
Est-ce que, au niveau de la municipalité, vous avez recensé des besoins spécifiques en termes d'immigration francophone? Est-ce qu'il y a des postes non pourvus par manque de personnel qualifié en langue française?
Je dirais que oui, parce que il y a beaucoup de postes qui doivent avoir des interactions avec le public quotidiennement. Donc, par exemple, il y a des centres d'appel pour 311. C'est le service à la clientèle de la municipalité pour répondre aux besoins et aux questions des résidents. Et dans les affiches de ces postes-là, le bilinguisme est toujours considéré comme un atout. Il y a aussi le centre d'appel de 911 pour lesquels on recrute aussi des personnes multilingues ou bilingues. Donc, je dirais que oui, il y a définitivement des postes où le bilinguisme est un atout. Mais d'autre part, je crois qu'il y a un domaine dans lequel on devrait améliorer les services, c'est de éliminer les barrières pour les candidats francophones qui n'ont pas nécessairement une bonne maîtrise de l'anglais, même si dans la municipalité, la langue de travail est l'anglais, il y a des postes où la compétence de communication n'est pas vraiment une compétence essentielle. Donc, dans ce cas-là, pour recruter un employé, il faut donner plus d'accommodation aux francophones pour qu'ils puissent, pour les soutenir à passer d'où le processus de recrutement.
On constate que le milieu associatif et privé en général s'investissent beaucoup pour faire vivre la communauté francophone. Et je pense notamment ce soir à l'événement des, à la nuit, enfin, un événement particulier, la Nuit des idées, qui se déroulera dans le monde. Et ma question, c'est est-ce que ces initiatives sont suffisantes et est-ce que les pouvoirs publics font suffisamment pour soutenir ces initiatives?
Il y a des initiatives pour justement soutenir la célébration et la commémoration de la communauté francophone dans lesquelles la municipalité s'investit aussi. Donc, je dirais que non, le pouvoir public n'est pas suffisant pour soutenir de telles initiatives. Le gouvernement doit prendre leur part aussi dans le développement et l'épanouissement des communautés culturelles minoritaires. Et c'est ce que notre bureau, en fait, s'efforce de faire parce que nous avons une équipe très diversifiée et on travaille avec les communautés culturelles différentes pour justement reconnaître la contribution de différentes communautés culturelles et pour les soutenir dans leur commémoration et les célébrations de leur propre communauté. Donc, pour ne citer que quelques exemples, on travaille avec nos partenaires communautaires chaque année pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs, le février. Et puis, on fête aussi le mois de la francophonie, le mars. Et la journée internationale de la francophonie le 20 mars, et puis le mois du patrimoine asiatique en mai, et aussi l'histoire des Mi'kmaq, le mois de l'histoire des Mi'kmaq en octobre. Et il y a aussi d'autres exemples des initiatives communautaires que notre bureau appuie. Et donc, si il y a des intérêts ou bien des désirs dans la communauté de marquer telle ou telle date ou bien de célébrer telle ou telle occasion, notre bureau serait vraiment intéressé et pourrait justement vous appuyer.
Impeccable. Alors, vous faites la transition sur ma conclusion. Donc, pouvez-vous nous dire quels sont les enjeux qui attendent votre bureau dans les prochains mois?
Autant notre bureau, je ne pourrais pas vraiment parler de notre bureau parce que ça serait le rôle de ma superviseure qui est la directrice du bureau. Et moi, je me spécialise dans les services en français. Alors, pour moi, donc, je pourrais peut-être parler un peu de mon point de vue en ce qui concerne les enjeux de des enjeux de mon travail que j'ai observé ces derniers jours ou bien ces dernières années. Donc, dans ce cas, je dirais que il y a un appui assez solide du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral pour promouvoir et développer les services en français. Mais c'est un avantage. D'autre part, l'enjeu ou bien le défi auquel que je confronte souvent, c'est la difficulté que j'ai de convaincre les gens de considérer le multilinguisme comme un atout économique, parce que selon eux, pour promouvoir le bilinguisme, le multilinguisme, ça dépend, il faut beaucoup de dépenses, c'est un grand investissement, mais pas vraiment avec un retour d'investissement immédiat. Donc, ça, c'est un grand enjeu. Et puis, d'autre part, parce que nous avons une société de plus en plus diversifiée, il y a de plus en plus de langues que les résidents parlent et pas nécessairement le français n'est pas nécessairement la deuxième langue la plus parlée à la maison, selon les statistiques. Maintenant, en fait, même les statistiques de 2016 montrent déjà que si on compte le nombre des personnes qui parlent une certaine langue le plus souvent dans la maison, l'arabe est la deuxième langue parlée dans la région d'Halifax et le français est le troisième. Donc, je suppose qu'avec les statistiques qui vont être publiées cette année, ce chiffre-là va s'évoluer continuellement. Donc, comment est-ce qu'on peut convaincre les gens de l'importance de sauvegarder et de préserver cette langue, cette deuxième langue officielle en concurrence avec tant d'autres langues non officielles? Ça serait un défi. À mon avis, il faut vraiment prendre une perspective multilingue au lieu de bilingue, de vraiment pouvoir organiser ou bien de voir l'image du point de d'une manière holistique et de pouvoir justement ne pas privilégier certaines communautés au détriment des autres.
Merci, Ziang Yang, pour tous ces éclairages.
Merci Sébastien pour m'écouter.
Donc, je rappelle que vous êtes conseillère en service en français au Bureau de la diversité et de l'inclusion de la municipalité d'Halifax. Et donc, on suivra ce dossier avec attention parce que c'est quelque chose qui me revient souvent.
Merci beaucoup Sébastien.